Laurent Sébastien Fournier est anthropologue. Il est professeur des universités à l'université de Côte d'Azur à Nice. Il est l'auteur d'une thèse en 2002, Ethnologie des fêtes locales en Provence, mise en valeur du patrimoine et vécu festif, si je ne me trompe. Voilà. C'est une thèse soutenue à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Ses thèmes de recherche concernent la fête, les jeux, le corps, le sport, la danse, le patrimoine, l'Europe. Il est l'auteur notamment, je pense que je ne citerai pas tout, en 2005, La fête en héritage, enjeux patrimoniaux, et je trouve que c'est une bonne suite à ce qu'on a eu de présentation ce matin. Enjeux patrimoniaux de la sociabilité provençale. En 2012, Mêlée générale du jeu de soule au folk football, publié à Rennes par les presses de l'Université de Rennes, enfin bon, à qui compresse. 2015, les jeux et le sport populaire de France par rapport à, je vois, Arnold Van Genep, donc, d'accord. Et en 2021, Anthropologie de la modernité. Donc, hier, nous avons eu l'éclairage d'un géographe hein, par rapport à notre thématique Vakilou Païs. Nous avons eu également le regard d'un sociolinguiste fort apprécié. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder cette question selon un nouvel angle, l'angle des ethnologues et des anthropologues, et avec Laurent-Sébastien Fournier, grand merci, Vaki, la notion de pays au regard de l'ethnologie régionale entre conservatisme et rhétorique révolutionnaire.
Eh bien, merci donc pour m'avoir invité à parler dans cette université d'été. Merci au MARPOC, merci à l'IEO, merci aux collègues présents aussi. Je vais essayer de parler de la notion de pays, qui est le thème donc de cette année, de cette université, au regard de l'ethnologie régionale. Et en fait, je vais être obligé de faire pas mal de rétrospectives historiques, je pense, parce qu'il faut un peu recadrer les choses par rapport à l'instrumentalisation politique aussi de cette notion de pays et au-delà sur l'instrumentalisation politique des notions d'identité culturelle, d'ethnicité donc en France. Alors je vais vous proposer une petite rétrospective pour indiquer comment la notion de pays elle a été à la fois manipulée par des rhétoriques conservatrices et par des rhétoriques révolutionnaires. Et peut-être ça peut expliquer aussi un certain nombre de choses qui arrivent dans l'actualité politique aujourd'hui. Pour comprendre la portée de cette notion de pays, on parlera du país un peu plus tard, mais c'est pays, país, c'est pas tout à fait la même chose en occitan selon que l'on le qu'on soit dans la langue occitane même ou en français. En tout cas, pour comprendre la portée de cette notion de pays au regard donc de la discipline qui est la mienne, l'ethnologie régionale, il faut tenter une généalogie des usages du terme. Et il n'est pas inutile à ce propos de remonter, non pas jusqu'aux années 70, j'avais prévu de parler un petit peu des années 70, du revival folk, et j'en parlerai bien sûr, mais je pense qu'il faut remonter encore plus haut jusqu'à l'entre-deux-guerres, période où le Front populaire, donc pas le nouveau Front populaire, mais le Front populaire historique, entre 1936 et 1939, avait décidé de valoriser ce qu'on appelait à l'époque les arts et traditions populaires à travers la création d'un grand musée national consacré à ce domaine, impulsé par un ethnologue de gauche, donc qui était SFIO à l'époque, Paul Rivet, homme de culture acquis aux idées internationalistes et ami de Marcel Mauss, lui-même militant socialiste, homme de progrès et fondateur de l'Institut d'ethnologie en 1925. Il faut imaginer à cette époque comment l'ethnologie qui représentait une avant-garde intellectuelle héritière de la sociologie durkheimienne, s'était intéressé tout à coup à des objets du quotidien, à des objets humbles, à des objets de série que la bourgeoisie de l'époque méprisait et n'aurait jamais accepté de faire entrer dans un musée. Il y a donc aussi un combat de remise en cause des valeurs esthétiques dominantes et pour la juste définition de l'art dans ce contexte, et donc une ouverture nouvelle à cette époque sur la notion d'art et de tradition populaire. Ces choses du quotidien, donc, qui relèvent de ce secteur des arts et traditions populaires, montraient, en 1936, donc au moment du Front populaire, des petits pays en train de disparaître dans un monde en pleine modernisation. À l'époque où le travail à la chaîne devenait la norme, on pense au temps moderne de Chaplin et au début du travail à la chaîne, donc du travail en usine. Ces intellectuels, ces ethnologues, ils tiraient la sonnette d'alarme en insistant sur la diversité des modes de vie traditionnels qui étaient en train de disparaître sous leurs yeux et qu'il s'agissait, selon eux, de conserver et de sauvegarder. Et parmi les personnes sensibilisées à cette cause, on trouvait donc, dans les années 30, aussi bien des gens de gauche, je l'ai dit, que des gens de droite, puisqu'il y avait là aussi le Félibrige, les ethnologues qui avaient été appelés au renfort par Mistral déjà au Muséum Art Latin depuis 1899-1900, les Maurassiens qui, à la même époque, écoutaient le maître de Martigues fustiger le pays légal contre le pays réel, et puis la Fédération régionaliste française de Jean-Charles Brun, tous se trouvaient d'accord pour défendre les petits pays et les modes de vie traditionnels des villages français. Et il ne faut pas oublier que Charles Brun, montpelliérain, a été secrétaire de la Fédération régionaliste pendant une très longue période, de 1900 à 1946, ce qui indique une grande continuité de cette structure en dépit des changements politiques radicaux qui ont affecté cette période. Aux origines du Musée national des arts et traditions populaires, donc entre 1936 et 1939, on trouve un premier essor de l'ethnologie régionale qui va s'intéresser, à la notion de pays et à la notion voisine de paysan. C'est important pour comprendre les bases d'une pensée qui va ressurgir après la Deuxième Guerre mondiale et qui va irriguer l'idéologie revivaliste dans les années 70. Sous le Front populaire, donc, il faut relever l'action du muséologue ethnologue Georges-Henri Rivière, qui s'intéresse de près à ces petits pays. Mais c'est un Parisien, et à cette époque, il fréquente donc le tout Paris. Il fréquente Joséphine Baker au Bœuf sur le Toit, les surréalistes, notamment Michel Léris, qui l'encourage pour partir collecter des objets d'arts et traditions populaires en Afrique subsaharienne, entre Dakar et Djibouti. Marcel Mauss, Paul Rivet, donc, qui viennent de fonder l'Institut d'ethnologie. Charles Brun, qui promeut le régionalisme. Tous ces gens-là se connaissent. Et Rivière a pour collaborateur André Varagnac, communiste engagé à cette époque, mais qui va mal tourner pendant la guerre et qui va accompagner le tournant vichiste de l'ethnologie régionale. À l'époque du folklore, donc du Front populaire, on trouve au centre des débats la notion de terroir et il existe donc une première initiative qui va être les musées de terroirs paysans, qui vont préfigurer d'une certaine manière les écomusées des années 70 et j'y reviendrai. Alors, donc ça, c'est quelques images que j'ai trouvées pour illustrer cet exposé. L'exposition internationale de Paris de 1937 qui montre que sous le Front populaire, donc, on a une volonté de mettre en relation la modernité, l'internationalisation et les particularismes régionaux. Donc en particulier, il est élaboré pendant cette exposition internationale des arts et techniques un centre régional consacré aux provinces françaises où la notion de pays va jouer un grand rôle. Et on construit au bord de la tour Eiffel une petite Alsace. Hein, c'est les images que vous avez là. Donc cette exposition, elle est inaugurée le 24 mai 1937, et elle témoigne de l'intérêt d'une société de l'entre-deux-guerres, par ailleurs extrêmement moderne et extrêmement ouverte. Donc, bon, c'est les premiers voyages en avion. Il y a malgré tout donc un intérêt pour le régionalisme, pour les musées. La mode de l'époque est au provincialisme et le monde rural est représenté dans cette exposition par ce centre régional, rive gauche de Paris. Et c'est le président de la fédération régionaliste, Jean-Charles Brun, donc, qui a placé ce projet auprès du gouvernement. Et il y a des pavillons qui correspondent à 27 subdivisions géographiques régionales qui présentent à la fois les techniques de pointe des différentes régions et les pratiques traditionnelles. En fait, on reprend le modèle des expositions internationales. Et il faudrait comparer cette exposition-là avec d'autres expositions, notamment avec celle de Lamberto Loria à Rome en 1911, où de la même manière étaient présentées dans des pavillons toutes les provinces italiennes. Le centre rural est un autre, donc ça c'est le centre régional. Le centre rural se situe à la Porte Maillot. Il présente un village moderne, modèle, et on y intègre un musée de terroir paysan, donc un musée de Romenay en Bresse. Alors ça, c'est la délégation bretonne, toujours à l'exposition internationale de Paris de 1937. Et ça, c'est le musée de terroir paysan de Romenay, qui existe encore aujourd'hui, et qui est donc à la base de cette prise de conscience de l'importance des notions de terroir et de pays et de paysan. Il y a un cortège, une fête de la moisson reconstituée en plein Paris qui se déroule à cette occasion-là. Et pour la zone qui nous concerne, alors ça c'est l'intérieur du musée de terroir paysan de Romenay avec des costumes. Et pour la région qui nous concerne, il y a une initiative en 1938 de créer un musée à Barbantane, à 5 km au sud d'Avignon. Un musée qui, en fait, s'accompagne d'une mission de prospection par 4 ethnologues et constitution d'un musée qui s'inscrit donc dans ce contexte complexe. Et ce musée, en fait, correspond à l'idée de faire un réseau de musées conçus sur les modèles suédois et allemands, avec le modèle notamment des musées ethnographiques de plein air. Et le Musée national des arts et traditions populaires, donc à Paris, va se doter de nombreux correspondants régionaux. Et en Provence, c'est principalement le conservateur du Muséum Art Latin, qui est à l'époque Fernand Benoît, mais aussi le folkloriste Marcel Provence, qui sera ensuite compromis pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président de l'Académie provençale d'Avignon, Joseph Clamont, qui est à Villeneuve-les-Avignons. Ce sont ces personnes-là qui jouent ce rôle, qui jouent le rôle de correspondants régionaux du Musée des arts et traditions populaires. Donc il conseille à Rivière et aux ATP de choisir Barbantane. Sur cette photo, c'est l'arrivée des enquêteurs à Barbantane le jour du 11 novembre 1938, ce qui signifie aussi qu'il y a pas mal de mise en relation, enfin, dans les faits, il y a une mise en relation entre la quête de ces ethnologues qui viennent à Barbantane pour y découvrir le folklore paysan, et puis le jour qui est symboliquement choisi pour leur arrivée, qui est le jour de la commémoration de l'armistice de 1918. C'est le 20e anniversaire de l'armistice de 1918, alors en 1938. Donc il y a en fait une étroite coordination entre la volonté de développer une politique nationale du folklore et puis l'intérêt pour les éléments régionaux et locaux. Les ATP et Georges-Henri Rivière vont en fait à cette époque proposer toute une politique de documentation sur la base du musée de terroir paysan de Romenay et multiplier ce modèle du musée paysan dans tous les petits pays de France. Il y a une revue qui s'appelle Folklore paysan qui est publiée par les chambres d'agriculture à cette époque et qui va en fait publié l'ensemble des appels qui est fait en fait aux populations via les chambres d'agriculture pour documenter leur propre culture paysanne en train de disparaître. Significatif de ce modèle, c'est que chaque fois il s'agit de faire des monographies locales, comprendre la situation géographique du terroir considéré, l'histoire et même la préhistoire, l'habitat, l'agriculture, la vie économique, les âges de la vie, les jeux et les divertissements, les moyens de transport, la vie moderne. En fait, on prend tout un ensemble de chapitres différents et on essaye de voir comment ça se passe localement. Et puis on collecte des objets traditionnels, donc des objets paysans qui vont ensuite être mis au musée. Ici, une charrue ou une arrière. Il y a toute une série de documentation. Enfin, il y a une documentation photographique assez importante qui reste disponible au MUCEM à Marseille et qui concerne cette mission. Il y a plusieurs centaines de photos qui ont été prises à l'époque. L'idée, alors, Georges-Henri Rivière, voit ces initiatives-là de collecte ethnographique sur le terrain comme une œuvre d'union. Il théorise ça, donc c'est une œuvre d'union. Le musée de terroir paysan doit faire oublier les querelles locales et ne négliger aucun concours. Les enseignants, les érudits, le clergé, les archivistes, les services agricoles, tous doivent apporter leur pierre à l'édifice. De définir un but pour valoriser le pays local, quoi, hein, et donc borner son effort à son propre terroir, mais pousser cet effort en profondeur, dit-il. Et puis, l'idée, ce n'est pas de se refermer sur soi-même à ce temps de Front populaire, mais voilà, ça c'est la farandole de Barbantane, qui est restée fameuse. Mais l'idée, c'est d'ouvrir aussi ces terroirs à l'extérieur. Et le village de Barbantane, dont j'ai reconstitué une partie des archives, là, va ensuite être appelé à participer à une exposition universelle qui est celle de New York en 1939. Donc il y a toujours sous le Front populaire cette volonté d'articuler le local et le global. Et après moult péripéties, les objets qui ont été collectés pour le musée de terroir de Barbantane vont ensuite être expédiés à New York. Alors je ne vais pas plus loin sur cet exemple. Simplement, on voit que en 1938, une équipe d'ethnologues enquêteurs du Musée national des arts et traditions populaires s'est rendue sur place dans un petit pays provençal, à Barbantane, pour mener un travail de prospection et présenter un musée de terroir paysan à l'exposition internationale de 1939 de New York. Une des péripéties majeures qui va survenir en cours de projet, c'est le renversement politique du Front populaire et le passage donc au régime de Vichy. Et on ne peut pas passer sous silence, évidemment, le fait que pendant la guerre, les ethnologues qui avaient été formés pendant le Front populaire ont été pris entre deux injonctions contradictoires: résister ou alors collaborer. Et la bannière des petits pays, c'est-à-dire le fait de faire des recherches sur les petits pays, eh ben, elle était plus qu'ambiguë à cet égard, comme en témoignaient les travaux de Christian Faure il y a déjà une trentaine d'années dans un livre qui était issu de sa thèse d'histoire et qui s'appelle « Le projet culturel de Vichy ». Le décret de création du Musée national des arts et traditions populaires va finalement tomber le 10 août 1941. Donc c'est une structure qui a été imaginée par un gouvernement de gauche, d'Union socialiste et communiste, en 1937-38, et puis qui va se concrétiser en août 1941, en pleine occupation de la France par l'Allemagne. Certains, comme André Varagnac, je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitent pas à trahir les idéaux de gauche des débuts et rejoignent la propagande folkloriste vichiste. D'autres restent à gauche, prennent le maquis, et notamment au musée de l'Homme, qui abrite à cette époque les services du musée national des arts et traditions populaires. Jean-Henri Rivière, lui, se sert de la politique vichiste pour lancer ce qu'on appelle à l'époque des chantiers intellectuels, collecte de mobilier rural, relevé concernant l'architecture rurale, l'architecture paysanne, monographie, etc. Ça va lui permettre d'enrôler des centaines de jeunes Français qui échapperont ainsi au service du travail obligatoire en Allemagne, ce qu'il va plaider pour être disculpé à la libération face au comité d'épuration qu'il accusait d'avoir collaboré à la politique culturelle de Vichy. Donc c'est une période extrêmement complexe, mais qui permet de montrer les enjeux aussi politiques importants qu'il y a autour de cette notion de pays. Alors après la guerre, le traumatisme qui est lié à l'occupation allemande va conduire à des bouleversements durables en France, et la place des ATP, donc des arts et traditions populaires, va être irrémédiablement changée. Dans le débat public, le temps est à la reconstruction, à la modernisation du pays. 1966, c'est l'année où Barnéou construit le plus grand shopping mall à l'américaine à plan de campagne, à côté de Marseille, pour contextualiser. On construit des autoroutes, on construit des usines, on draine le Rhône. Et le folklore régionaliste, pendant ces années 50 et 60, il se réfugie beaucoup dans des spectacles folkloriques, et les études d'ethnologie régionale perdent beaucoup du terrain à cette époque-là. Rivière, Jean-Henri Rivière, arrive à sauver le projet des arts et traditions populaires, mais son musée, le musée des ATP du Bois de Boulogne, ne sera ouvert qu'en 1972, et il n'y restera établi que jusqu'en 2005, date à laquelle les collections ont été déplacées pour rejoindre à Marseille le MUCEM. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, il paraît significatif de noter que 1966, qui est donc la date de la conception de la zone commerciale hypermoderne de plan de campagne, c'est aussi la date des rencontres de l'URSS, où est inventée la notion de parc naturel régional. Et là, c'est un autre chapitre qui s'ouvre pour l'ethnologie régionale et pour la valorisation de la notion de pays, puisque dans les années qui précèdent, enfin c'est les années qui suivent vont être celles du revival folk, et donc je vais passer à la partie suivante de mon exposé. Ça c'est la photo du musée des arts et traditions populaires de Paris tel qu'il, peut-être certains d'entre vous l'ont visité. Il est resté ouvert de 1972 à 2005, et il présentait ce contraste assez exceptionnel d'un bâtiment hyper moderne, mais qui accueille des objets des sociétés traditionnelles françaises, des régions. En 1966, à l'URSS, en Haute-Provence, sont inventés les parcs naturels régionaux. Là, on a de nombreux acteurs associatifs, régionalistes, des ethnologues, parmi lesquels toujours Jean-Henri Rivière, sont présents. Et dans les années qui suivent, on va voir apparaître de nouvelles sensibilités qui valorisent la ruralité et les petits pays. Et parmi les éléments de contexte de cette époque, il faut mesurer l'importance de mai 68, l'influence de la contre-culture américaine, l'idée du flower power qui entraîne la contestation des normes occidentales et qui va conduire à critiquer la notion même de progrès. C'est aussi l'époque où, après la décolonisation, de nombreux ethnologues sont revenus en métropole et appliquent aux régions françaises leur regard exotisant. Et dans quelques années, la crise pétrolière va accentuer la défiance que les populations occidentales peuvent avoir vis-à-vis de l'idéal d'un progrès infini. Des groupes de pression commencent à réfléchir à des alternatives. Le Club de Rome réfléchit à des motifs de croissance alternatifs. L'économiste britannique Ernst Schumacher publie en 1973 « Small is Beautiful ». Il évoque, je cite, « une société à la mesure de l'homme » et pense l'économie en relation avec les préoccupations des vrais gens, comme il dit. C'est une manière de rompre avec les perspectives théoriques des économistes des générations précédentes qui réfléchissaient surtout en termes de marché et de globalisation. Et là, bon, je ne peux pas ne pas citer une partie, enfin un extrait de Small is Beautiful pour nous ramener dans l'ambiance quand même des années 70. C'est un livre qui interroge les échelles et critique le gigantisme. Schumacher dit « Il y a quelque sagesse dans la petitesse, ne serait-ce que eu égard à la petitesse et à l'éparpillement du savoir humain qui repose sur l'expérience bien plus que sur la compréhension. Le pire des dangers vient invariablement de l'application brutale sur une grande échelle d'un savoir partiel, comme nous en sommes journellement les témoins avec l'énergie nucléaire, la chimie nouvelle en agriculture, la technologie des transports et d'innombrables autres choses encore. » Une approche visionnaire, donc, qui semble extrêmement actuelle encore aujourd'hui. À la même époque, paraissent le livre intitulé « La convivialité » d'Ivan Illich et le rapport Meadows, intitulé « Halte à la croissance » de l'équipe du MIT, qui va être régulièrement remis à jour et qui reste une des références des débats et des critiques portant sur les liens entre conséquences écologiques de la croissance économique, limitation des ressources et évolution démographique. Donc, the Limits to Growth, hein, de Dennis Meadows et de son équipe. Ce rapport, The Limits to Growth, est en fait issu d'une commande du ce qu'on appelle le Club de Rome à l'époque, qui est issu de l'OCDE et qui est là pour gérer les problèmes de la société moderne. C'est un groupe de réflexion établi en 1968 qui réunit des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, des industriels préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, autant les sociétés industrialisées que les sociétés en voie de développement. Et le Club de Rome donc, a adopté un programme d'action thématique autour de différents points. Plan d'action d'urgence pour la planète, recadrer l'économie, repenser la finance, faire émerger une nouvelle civilisation grâce à la révolution humaine, donner le leadership à la jeunesse et favoriser les dialogues intergénérationnels pour façonner l'avenir. Bon, c'est peut-être des idées dans lesquelles on peut se reconnaître encore, hein, bien que ça fasse 50 ans que ces textes ont été publiés. Le contexte propre à la fin des années 60 et au début des années 70 est de la première importance pour comprendre le renouveau du régionalisme dans le sud de la France. En effet, contre une vision trop répandue d'un régionalisme qui serait forcément identitaire, je suggère ici que le revival folk et le régionalisme des années 70 ont été légitimés par ce contexte global, ces évolutions des sensibilités vis-à-vis de la notion de progrès technologique et nourries par les travaux des ethnologues capables de montrer l'intérêt des modèles culturels et sociaux traditionnels pour donner des alternatives à la société moderne. Et ici, une seule référence suffira, c'est celle de Pierre Clastres et de son livre fameux « La société contre l'État », publié en 1974, où il démontre magistralement l'importance des contre-pouvoirs populaires locaux qui peuvent, dans les chefferies amérindiennes, contrer efficacement l'action de l'État et imposer une autre vision des choses. Pas étonnant donc si, en 1974, la même année où Clastres publie « La société contre l'État », Robert Laffont va créer à Montpellier le mouvement socialiste et autonomiste occitan Volenvia au País, MSAOVVAP, mouvement politique qui va réunir les régionalistes occitans sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et jusqu'à la création du Parti d'Occitan en 1987. C'est un simple slogan, au départ, Volenvia au País, qui devient un parti politique, et ce mouvement va rappeler aux politiques parisiennes l'intérêt de décentraliser la pensée à une époque où la décentralisation politique, je le rappelle, n'est pas encore actée. On est avant les lois de décentralisation. À la différence du romantisme révolutionnaire de lutte occitane, qui était le mouvement des années précédentes, Volenvia au País va attirer des sociodémocrates, va attirer des démocrates chrétiens, et ses militants vont participer à l'Union de la gauche et s'engager localement auprès des viticulteurs languedociens, par exemple, ou contre le nucléaire. Et puis, déçus par l'arrivée de la gauche au gouvernement en 81, ils vont quitter progressivement le mouvement. Et on peut retrouver dans l'ouvrage classique, hein, je pense pour vous, non à l'exode, non à la liquidation, les revendications de ce mouvement politique, Volem Vivre au País, qui dénonce toutes les formes d'oppression économique, sociale, raciale, sexuelle ou culturelle qui peuvent donc être visées localement les populations. Donc on voit bien comment la notion de pays, dans les années 70, est restée marquée par des idées progressistes, voire révolutionnaires, tandis que dans le camp conservateur, la droite se tournait plutôt à cette époque vers le capitalisme industriel et l'idéologie d'une croissance illimitée. Alors je me suis permis parce que je crois que c'était important quand même d'avoir une rétrospective historique. Vous m'aviez demandé d'intervenir sur des études de cas, je vais en parler un petit peu, moins peut-être que ce que vous auriez souhaité, mais j'ai pensé que c'était quand même important de faire cette mise au point. Sur le terrain, donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour aborder un volet plus concret de mon travail, je vais parler un petit peu des revitalisations de fêtes traditionnelles locales ou celui de l'invention des nouvelles fêtes à l'ancienne dans les années 70, parce que en fait ces activités là sont en fait importantes pour montrer comment ça s'est passé, cette prise de conscience. Je veux dire, en tant qu'ethnologue, je pense pas que les idées existent en dehors des actes. Évidemment, il y a une prise de conscience politique dans cette époque-là sur le plan des valeurs, mais il y a aussi des actes et ça se passe donc localement beaucoup dans le revivalisme festif, pour ce que j'ai pu en voir. Pour une vision d'ensemble, on peut se reporter à l'article du sociologue Patrick Champagne dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1977. Ça s'appelle la fête à la... La fête au village, je crois. Il faudrait aussi tenir compte des travaux des économistes italiens à la même époque sur la notion de développement endogène, qui vont être relayés ensuite par les réflexions des économistes au sujet des systèmes productifs locaux et la valorisation donc de la localité. Et bon, la mise en œuvre de fêtes locales est aussi un enjeu pour les gens qui essayent de redynamiser l'économie locale. Et par ailleurs, il faudrait évoquer ici le livre de Jean Viard et Michel Marier, La campagne inventée, qui analysait à la même époque, donc en 77, les volontés de retour à la terre et le néo-ruralisme dans la région du Luberon à la même époque. Alors, les exemples que j'ai travaillés plus particulièrement sont la campagne inventée, sont des fêtes de Saint-Éloi. Alors, elles sont contemporaines de ce revival. Je vais parler rapidement de ces fêtes et puis de la fête des olives vertes de Mauriès. Ce sont des fêtes sur lesquelles j'ai publié ailleurs, mais qui montrent deux types de logiques à l'œuvre dans cette époque des années 70 et qui sont très différentes. En fait, là, Mauriès, la fête de la Saint-Éloi, c'est une fête blanche, hein, c'est une fête de confrérie. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Les rouges et les blancs, hein. Je fais référence aux travaux de Maurice Agulon sur les rouges et les blancs en Provence. Donc les fêtes, ce sont des fêtes conservatrices, ce sont des fêtes qui sont organisées dans le milieu des confréries religieuses locales. Ce sont des fêtes de confréries anciennes qui sont attestées depuis le XVIIIe siècle et puis qui sont revitalisées dans le milieu paysan local à une époque, donc dans les années 70, où les chevaux de trait ont été progressivement remplacés par des tracteurs et où une certaine nostalgie s'empare des agriculteurs locaux. La fédération des confréries de Saint-Jean, Saint-Éloi et Saint-Roch, Alpilly-Durance, qui réunit en fait une vingtaine de fêtes de ce type date de 1970. C'est pas un hasard si elle a été inventée, cette fédération, enfin constituée cette fédération en 1970. Donc on se réunit beaucoup autour de la notion de maintenance, hein. On est dans le pays de Frédéric Mistral, donc il y a évidemment une utilisation de cette version là du régionalisme. mais avec des résurgences agraires. Ici, donc, la charrette, la charrette ramade, qui est au centre de ces fêtes et qui est intéressante dans le sens où elle a aussi potentiellement des valeurs qui correspondent à la réunion de la population locale autour d'un emblème de la nature locale, quoi. Ce sont les essences principales du pays qui sont portées là sur la charrette. Donc on se réunit lors de ces fêtes. Je veux dire, si on fait abstraction de l'aspect politique conservateur, il y a quand même cet enjeu qui est intéressant, c'est de voir qu'on va chercher des essences, des herbes du pays, on coupe des branches, et dans chaque village, on fait une charrette à l'image de son propre terroir. Alors Mauriès, c'est un autre cas, c'est très différent. Il s'agit d'une fête locale qui a été créée de toutes pièces autour d'un produit local, donc l'olive, après un traumatisme dû au gel des oliviers provençaux en 1956. Et on a quelque chose qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus inventif. Ça, c'est le concours d'Aioli sur le cours à Mauriès chaque année, donc, où on s'affronte pour monter la meilleure Aioli. Donc là, on a des critères de jugement qui sont la consistance, le goût et la couleur, et qui vont permettre de départager les concurrents. Donc un défilé folklorique, mais qui se permet pas mal d'inventivité. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est « Born to be alive sur la charrette ». Donc, c'est pas tout à fait la même version que la Saint-Éloi, avec toujours le même truc extrêmement... cadré, extrêmement légitimiste. Voilà. Et puis des interprétations un peu fantaisistes de la culture provençale, avec ici donc les Amazones qui accompagnent la mémoire de Folco de Baroncelli. Donc les comment tu as dit? Les buffalo bifettes. Alors, bon, évidemment, la question de la région dont je parle est très particulière, puisqu'elle elle subit une influence forte du mistralisme. Hein. On se situe là dans le triangle d'or du Félibrige. Mais les études de ces fêtes révèlent des complexités de situations locales où vont s'affronter finalement des conceptions divergentes de la localité. Pour certains, il s'agit vraiment de se référer à la tradition, avec une emprise catholique forte et des traces de l'agrarisme conservateur hérité du passé, donc une vision blanche du terroir qui ne conteste pas trop l'ordre politique dominant. Mais pour d'autres, il s'agit de tirer parti des ressources locales dans une perspective d'économie touristique aussi et de tertiarisation de l'économie. Et le pays va devenir un décor qui se vend facilement aux touristes, et de nombreux néo-résidents jouent un rôle évident d'intermédiaire dans ce processus. Alors face à ces tentations, conservatrices d'une part ou plus libérales d'autre part, ce que j'observe, c'est que les rhétoriques révolutionnaires liées à la notion de petit pays, celles qui avaient donc vu le jour dans les années 70, elles ont plutôt tendance à s'estomper, tandis que progresse la globalisation. Par ailleurs, dans un monde dominé par les technologies numériques, les petits pays deviennent instantanément accessibles par les images des téléphones mobiles qui sont relayées aux quatre coins du monde instantanément par les participants aux fêtes. Et on va retrouver quasiment en direct sur Internet les films des participants aux apéros géants des fêtes provençales, ce qui pose question quant à la définition de la localité et du pays à l'heure des réseaux sociaux numériques. Alors pour conclure, je dirais qu'on pourrait se prendre peut-être à rêver d'un monde où les petits pays et les productions locales seraient mieux respectés et mieux encouragés, mais les grandes tendances actuelles de la mise en image des lieux ou de la patrimonialisation laissent envisager que le marché de la localité risque d'être de plus en plus la proie de processus de commercialisation. Et pourtant, il y aurait d'autres combats à mener pour les petits pays. Et en préparant cette conférence, j'ai repensé à Charles Galtier qui m'a formé à Égalière. Donc, on fait partie du même, enfin, on vient du même pays, du même endroit. Et lui, dans La Tour de Feu, dans une revue poétique dans les années 60, il parlait de la notion, il disait mon pays, mon endroit. Il disait Égalière, mon endroit, c'est mon endroit. Et donc, il trouvait Munendré, c'est une expression très, très, très révélatrice pour nommer le village natal. Plus que le pays, c'est mon endroit, c'est-à-dire littéralement, disait Galtier, le lieu où les concordances sont telles entre l'homme, le pays et le groupe que l'individu s'y sent absolument d'aplomb. L'endroit ou l'envers, c'est aussi des choses peut-être auxquelles il faut penser. En tout cas, j'ai trouvé très belle cette expression de Galtier quand il dit « mon endroit ». Donc il faudrait sûrement se souvenir que les pays, pour décharger un peu cette polémique ou la polarisation entre le pays conservateur et le pays progressiste, peut-être se rappeler qu'il faudrait penser les choses plutôt en termes d'endroit. Ce sont des endroits pour celles et ceux qui y vivent. Et puis, toujours en pensant à Charles Galtier, il m'avait montré aussi qu'on pouvait utiliser les écosystèmes locaux pour penser la complexité du vivant. Par exemple, le fenouil bâtard ou le sumac permettent de penser la manière dont on pense, en fait. Donc, je voudrais terminer là-dessus en évoquant donc la mémoire de Charles Galtier et rappeler que il a toujours et j'ai aussi essayé de poursuivre cette voie, essayer d'articuler le local et le global sans exclusive de l'autre, penser que c'est dans le local qu'on trouve le global et que comme l'a dit aussi Christian Bromberger avec qui j'ai travaillé, jamais nous n'avons été aussi semblables et jamais on ne s'est senti aussi différents. Donc tout tient là-dedans, peut-être pour éviter des compréhensions trop hâtives de cette notion de pays. Voilà, merci pour votre attention.
Donc, grand merci Laurent-Sébastien Fournier. Vésiquet, il y a des questions. Donc, vous demandez d'être bref dans la question, hein, et de ne pas faire des questions. Et, bah, qui. Donc, on commence ça. Mais fa pensa la conférence de Laurent-Sébastien. D'un pays ailleurs, avec des mondes qui nous. Qui nous apprennent ou qui nous disent qu'aussi pensa la complexité et verrai que la vie est complexe et à l'ourdard il y a des mondes qui veulent nous dire non, c'est simple, c'est blanc ou noir et tout d'accord pour pas marcher. Baki.
Merci pour ces éclairages super bien présentés. Voilà, moi j'habite à Raphaël-les-Arles. Raphaël, c'est un hameau qui est rattaché à Arles. Donc, le hameau, la ville. La ville d'Arles fait partie du pays d'Arles, qui fait partie de la communauté de communes, ACCM, qui fait partie du département 13, de la région PACA, si mal nommée, qu'on aimerait bien qu'elle s'appelle Provence, qu'elle revienne à son ancien nom. Qui a évité d'être une super région comme l'a été la Nouvelle-Occitanie et qui fait partie de la France. Donc, on nous parle toujours de millefeuille. Mais quelle est la feuille qu'il faudrait enlever d'après vous ?
Ça renvoie directement au premier texte des ethnologues sur le sentiment d'appartenance, cette remarque-là. C'est exactement ce que Evans Pritchard, donc l'ethnologue anglais qui s'était rendu au Soudan dans les années 1920, avait essayé d'exprimer. Et en rappelant qu'on se définit toujours, c'est le système des identités gigognes, c'est comme les poupées russes, quoi. Donc en fait, je pense pas qu'il faudrait enlever une couche ou une autre. Je pense que il faut juste comprendre qu'en fonction de avec qui on parle, on va se définir en fonction d'une couche ou en fonction de l'autre. Moi, si je suis à Égalières, je ne reconnais pas forcément les Égaliérois du centre du village qui montent leur business de restauration pour les touristes. Là. Moi, je suis mieux dans mon mas, à Cordillers, comme on dit, dans mon quartier. Donc là, je serais même plus radical. Je serais plus de mon mas que de mon village. Après, c'est sûr que si je vais n'importe où en Provence et qu'on me demande d'où tu viens, je vais dire je suis des Galières. Mais si je suis à Paris, je dirais que je suis provençal. Et si je suis à l'étranger, je dirais aussi que je suis français. Donc c'est juste, redéfinir la notion de... C'est la segmentation... Enfin, bon, Evans Pritchard parlait de société segmentaire, mais en fait, nous sommes tous liés à des segments de la société qui changent en fonction de là où nous sommes. Donc voilà, moi, de ce point de vue-là, je ne crois pas trop à l'identité en tant que réalité fixe.
Oui, alors juste un petit point historique, on y reviendra après, mais c'est pas la FON qui a créé VVAP, et c'est en 1974, c'est en soutien à la candidature avortée de la FON. Et VVAP et la FON, c'était la guerre. Donc on en reparlera après, mais voilà. Parce qu'on vient, on publie actuellement des actes de colloque, c'est pas moi qui ai fait l'article, c'est des historiens, mais vraiment qui ont bien mis ça en lumière. Et par contre, par rapport au carré Toramad, et par rapport à ce que tu disais, cette dichotomie noir et blanc, pardon, rouge et blanc, elle existe puisque... À Château-Renard, on a la carrette rouge.
Ah, oui.
Et moi, j'ai vu défiler la carrette rouge et la voir avec les fruits et légumes du pays rouge et à Chantelle-Inter. Ah, ouais. Ça change un peu de Molégeste ou de Graveson avec la blanche. Donc, ces conflits dont tu parlais entre rouge et blanc, ils se traduisent aussi dans les pratiques festives. Et on est d'accord, non ?
Oui. Tu as raison. Enfin, je souscris complètement à... à ces précisions-là. Hein. C'est simplement, Oui, bien sûr, oui, c'est la charrette de la Madeleine. Hein. Donc on a la charrette blanche de la Saint-Éloi, c'est aujourd'hui et demain, là. Et puis la charrette de la Madeleine, ce sera le premier week-end d'août. Et effectivement, elle est républicaine et elle est coiffée de du bonnet phrygien. C'est la Madeleine coiffée du bonnet phrygien. Bon. Et des glaïeuls, des glaïeuls, des milliers de glaïeuls. Ouais, ouais. Oui. En fait, c'est vrai que peut-être j'ai pris deux exemples contrastés parce qu'en fait, les fêtes de Saint-Éloi en général ont été revitalisées dans les années 70. La fête de Mauriès a été inventée, c'est pour ça que j'avais pris ces deux exemples-là. Mais après, si on affine, effectivement, dans les Saint-Éloi, toutes ne sont pas blanches. D'ailleurs, c'est pas une Saint-Éloi, c'est la Madeleine. Mais c'est une fête à charrette qui n'est pas blanche. Donc il y a des fêtes à charrette qui ne sont pas blanches, tu as raison de le préciser. Et puis, de l'autre côté, dans les fêtes des produits du terroir, j'ai pris l'exemple de la fête des olives qui est assez inventive, assez créative, assez ouverte à l'autre, mais il y en a qui sont aussi de l'autre bord, quoi. Donc c'est...
Mi vien una picciotta cascarellette che mi era stata contata per un gravizzone Et escourtette, est-ce l'histoire des 12 explorateurs qui s'en vont en Afrique, au temps qu'il n'y avait pas grand monde qui en avait en Afrique, qui sont presque par une tribu et qui y a les Indiens, mais les plumes et tout à coup, qui les mettent au poteau, qui font le tour à coup, et vous dites waouh, 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 waouh. Et à un moment, il y a une qui s'approche d'un explorateur, donc Gravezouné, qui le regarde dans les yeux et qui dit « Mais c'est pas des Gravezoun, tu ?» La notion de pays.
Bon, bah, qui c'est ? Ah, Jean-Louis.
Deux causes. Une première qui m'est vingette hier. Père Desquez, la question sur le mot de pays, mais semble qu'il y a une approche qui se maille al singular, lou pays, est-ce qu'on m'a dit qu'il y a des occitanistes qui créent que l'Occitanie est une pays, derrière, ce n'est pas une pays. Et le plural, qui fait qu'il y a maille d'une pays, il y a une diversité dans le pays, et c'est trappé dans cette diversité. Une empreinte culturelle est un bien naturel, c'est l'exemple d'Alminerbès. Et bien, c'est la différence entre le pays et le département. C'est-à-dire qu'il y a un pays reconnu de langue qui t'amène par les institutions cléricales, la cathédrale est tout à coup, la cathédrale Saint-Paul-de-Thomière qui fait de l'angle d'Alminerbès. Un pas républicain, tu avais les institutions de juges de paix, de corporations importantes, et qu'est-ce une vitalité art. Veille se disent d'un pays comme Saint-Paul-de-Thomière, qu'est-ce un non-service d'El SAMU qui ne vient pas servir à quelqu'un à 4 heures du matin, c'est un pays qui est perdu. Donc, c'est la réponse d'El SAMU de Montpellier. Le monde qui est en train de mourir à Saint-Pons, mais une infarctus. Donc, sous une question force concrète, il n'y a pas plus de la désertification médicale, c'est fait. Il y a Kanana, cerca des commerces loin du village. Et donc, sous laquelle, et avec une exploitation politique d'aquelle AFA, qui s'éveille dans la route le Rassemblement national qui a un peu les gars de force la question. Et à Benbis, dit la circulaire électorale que tout le monde parle de la désertification médicale. Mais nous discutons, est-ce pas l'humain l'humain, quand se parle de désertification médicale, per des mandats, l'attribution de postes, la sortie de la formation et tout à coup, et le monde qui est bon restera à le niveau d'une pays, mais d'une pays modernisée. Et à quel pays mais organisé, est-ce mais économiste que linguiste. Et il y a une école force importante sur le plan économique, et à quel de Montpellier, qui travaille force sur le bassin d'emploi. Qu'est-ce que c'est bien art, dit la terminologie de l'INSEE, les zones d'emploi. Qu'est-ce une mi-temps qui est maille large que le pays traditionnel, mais ce qui amène qui tourne maille proche par l'organisation des services et tout à coup. Et sous à coup, il semble qu'il y a une ressource possible et quelle ressource c'est faire maille une agache fédéraliste qu'une agache étatiste. Et sous à coup, cambio la vision du pays. Il y a une vision du pays qui est une vision centralisée, qui est laquelle qui fait la départementalisation en France, qui est toujours terrible, parce que c'est la départementalisation qui fait que les circonscriptions électorales sont force inégales en droit, et que c'est bien une différence entre la majorité sociologique, c'est-à-dire quand même 33 de plus, 25 une organisation est majoritaire. Est-ce pas majoritaire? Enfin, une quart des citoyens. Donc, qu'elle cambia l'angle, et mais qu'il semble qu'elle a après Gundy, la notion de pays, mais de pays en pensant tabé que dans la grande métropole, il n'y a pas une question de pays, c'est une question de baril, de quartier. Et ce travail sur la côte, parce que la proximité N'est-ce pas la métaille, c'est quand ça se trappe à Saint-Bonnet-Thomières ou se trappe à la Paillade ou à la Devèze à Béziers. Et avec une force de travail à Suzacon.
Oui, mais ce que vous dites, là, ça rejoint les travaux d'un collègue géo-historien, Jean-René Trochet, en Sorbonne, là, qui a fait une analyse à la fois historique et linguistique des différents noms qui signifient le local partout en Europe avant la mise en œuvre des États modernes. Et donc la notion de pagus, elle est centrale. Et il montre bien que, comme vous le dites, il peut y avoir une vision d'en bas ou une vision d'en haut du pays. Vision d'en bas à partir de l'organisation des chefs de famille dans la société traditionnelle ou des corporations de métiers. Et vision d'en haut à partir de l'instauration des premiers États au Moyen-Âge et ensuite, et puis par le biais de l'Église et des diocèses et du maillage de l'administration de la religion. Donc c'est sûr, c'est ça qui est central, je veux dire, dans cette notion de pays, je crois, c'est qu'on peut la prendre à la fois par en bas et par en haut. Et vos réflexions, il me semble, sont éclairantes de ce point de vue-là, en rajoutant le côté économique. Donc, et finalement, ça complète aussi mon propos qui est un peu plus pris dans l'aspect culturel, ou l'aspect... ouais.
Bah qui bah, ça baisse pas... Il y aurait sûrement d'autres questions ou d'autres observations. Mais bon, est-ce la miège? Donc, bien ok, pouvez clava à quelle conférence. Merci. Merci à Laurent Sébastien d'avoir accepté notre invite et pour quelle conférence.
Non, mais grand merci à tous. Vous ne pouvez pas parler en Provence ou. Trop bien. Paul ou parle un peu, ma père faire une conférence. Aurait été nécessité de toute la préparer. Beléo, Beléo de Beurunko. Et puis d'écrire un peu avant. Trop de travail, Perrier. Alors, grâce, ma vous remercie encore et une bonne continuation par la. Ah, d'accord.
Tout est plat. grand merci.